Bonjour à tous, frères et sœurs. Je vous souhaite un très agréable sabbat. Avez-vous déjà entendu quelqu'un vous dire « Tu sais, aujourd'hui, je ne suis pas très motivé. Et même depuis un certain temps, je pense que je ne suis plus motivé du tout. Vraiment, je ne sais pas comment toi tu fais, mais en ce qui me concerne, je ne sais pas où tu prends ton énergie, mais moi, je pense que j'ai fait le tour de l'existence. » Avez-vous déjà entendu cela ou quelque chose de similaire de la part de quelqu'un? Avons-nous parfois ce sentiment nous-mêmes que finalement nous aurions fait le tour de l'existence? Dans le livre de l'Ecclésiaste, dans la Bible, au chapitre 12 et au verset 2, voici ce que le roi Salomon déclare. Il dit ceci, verset 3, Ecclésiaste, chapitre 12, et commençons plutôt au verset 2. Il dit, bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps. Car, écrit-il, la jeunesse et l'aurore sont vanité, mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Avant que les jours mauvais n'arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Ce verset semble a priori formulé comme une sorte de fatalité. Voici ce qui tôt ou tard va arriver dans ma vie et voilà, ce sera la fin. Mais si nous voulons vraiment nous réjouir de la vie, parce que la vie est à propos de réjouissance, il y a énormément de choses plaisantes dans la vie. Si nous voulons vraiment honorer, en tant que chrétiens, la vie que Dieu nous donne, alors je crois qu'il nous appartient à tous de faire en sorte que le moment de douleur, le moment de peine, arrive le plus tard possible. Et tous, nous devons passer par des épreuves, des difficultés, plutôt dans la vie, de toute façon, des épreuves dont nous guérissons, des difficultés que nous surmontons ou que les événements nous permettent de surmonter. Elles font ces difficultés, ces épreuves, ces tests font partie de notre vie. Et je dirais pour notre bien, aussi curieux que cela puisse paraître. Elles sont, ces épreuves, nécessaires. Elles nous permettent de construire le caractère dont nous avons besoin pour croître en termes de solidité, en termes de maturité réelle, comme Dieu souhaite que nous puissions le faire. Nous avons une destinée, nous avons un destin, Dieu a un plan pour nous. Nous allons entrer dans sa famille, à condition bien sûr que nous désirions cela. Nous allons entrer dans sa famille et Dieu veut nous permettre d'atteindre cette maturité. Nombreux sont les exemples bibliques de personnalités qui, ayant atteint un âge avancé, un stade qui leur a apporté un bilan heureux de leur vie, un contentement certain, malgré les difficultés, malgré les épreuves, la quiétude d'une vie digne et bien remplie. Que pensez-vous, de nos jours, de l'exemple récent de la reine d'Angleterre, la reine Élisabeth, la deuxième du nom? N'est-ce pas, après tout, l'exemple d'un être humain absolument, je dirais, un exemple absolument phénoménal? Sa vie entière a été dédiée au service de son peuple et son long règne est là pour témoigner d'un sens du service absolument unique. En fait, dans le verset que nous venons de lire, dans les deux versets, le verset 2 et 3 de l'Ecclésiaste chapitre 12, rien ne nous dit qu'en fait le roi Salomon parlait exclusivement de la vieillesse. Ce verset peut évoquer en nous ce sentiment qu'à un moment donné, dans la vieillesse, bien sûr, cette phrase biblique viendrait immanquablement s'appliquer, oui, effectivement. Or, en fait, même si dans la vieillesse, nous pourrions dire, voilà, c'est assez maintenant, je suis prêt à partir, Dieu, en fait, sait, il est le seul qui sait quand ce moment viendra. Il est celui qui nous délivre de nos tourments, il est celui qui nous guérit et qui finalement nous apprend à vivre. En fait, dans ce verset, Salomon nous parle surtout d'une chose, d'un danger que nous ne devrions pas sous-estimer. Et ce danger, c'est celui-ci, celui de la perte de la motivation. La perte de la motivation. Le titre de ce sermon est « La motivation chrétienne ». Et je voudrais vous en parler aujourd'hui avec cet exemple, pour commencer, de Salomon, le roi qui avait tout vu, le roi qui avait tout expérimenté. Dieu lui avait donné tellement de dons, tellement de sagesse, que tout lui semblait acquis. Et que, surtout, surtout, rien ne semblait plus l'étonner. Faisons attention à ce danger, nous chrétiens, d'avoir peut-être fait trop vite le tour de notre existence, le tour de tout. Et pourquoi ne laisserions-nous pas Dieu, plutôt? Pourquoi ne laisserions-nous pas Dieu nous montrer le vrai tour de notre vie? Sommes-nous sûrs d'avoir fait le tour de notre vie? Dieu seul sait si nous l'avons fait. Mais surtout, faisons-lui confiance. Faisons-lui confiance que cette propre visite de notre vie que nous faisons nous-mêmes, eh bien, Dieu va l'organiser d'une façon absolument magistrale, parfaite, puisque nous avons confié notre vie, nous lui avons donné notre vie en tant que chrétien. Il va le faire d'une façon magistrale, il va le faire d'une façon étonnante, qui va nous étonner. Pour peu que nous le laissions faire, pour peu que nous le laissions nous guider, là où il veut nous guider. La vie est en fait pleine de surprises, nous le savons. Considérons simplement là où nous en sommes maintenant, par rapport à ce que nous essayons d'imaginer il y a une décennie, deux décennies. La sénatrice canadienne Viola Léger disait ceci dans son émission célèbre, « Le bonheur, ce n'est pas de l'avoir, c'est de savoir qu'on va l'avoir. » Et Dieu nous réserve des surprises dans nos vies, des étonnements, pour peu, je le disais, que nous le laissions nous guider là où il veut nous guider. Aussi étrange soit le parcours, aussi étrange soit le chemin, les apparences. J'aimerais vous poser quelques questions, et en particulier, comment pourrions-nous définir les différents facteurs de la motivation? Qu'est-ce qui, d'après vous, nous déclencherait en nous la motivation? De quoi avons-nous besoin dans nos vies pour nous sentir motivés? Chacun pourrait peut-être donner des réponses différentes. Alors, les spécialistes, qui sont à peu près tous d'accord sur les théories présentes sur l'art de la motivation, sur la façon, l'art de rester motivé, ou aussi comment encourager ceux qui en ont besoin, comment encourager la motivation chez nos proches quand eux-mêmes se retrouvent précisément découragés. Eh bien, sans reprendre les grandes théories, les cinq grandes théories classiques développées par les plus fameux spécialistes de la motivation, en particulier aux États-Unis, comme Abraham Maslow, le psychologue Frédéric Herzberg, ou encore le professeur Douglas McGregor. Eh bien, j'aimerais sortir un petit peu des sentiers battus sur le plan universitaire et plutôt évoquer un résumé très simple donné par un auteur, un dramaturge franco-canadien que vous connaissez peut-être, Patrick Leroux. Il est auteur de 9 best-sellers, conférencier professionnel sur le thème précisément de la motivation et de la performance. Alors d'après lui, il existe, et en accord avec les grandes théories sur la motivation, il existe en fait 4 facteurs clés de la motivation. Le premier facteur, c'est l'espoir. C'est, en fin de compte, l'identification de nos rêves. Quels sont nos rêves? Quels sont nos projets? On a tous des projets, des choses qu'on aurait aimé faire, parfois même un peu folles, mais nous avons tous eu des rêves, des choses qui nous passionnaient et que nous aurions aimé réaliser. Le fait est que nous avons probablement, j'ai ou peut-être avez-vous encore dans votre vie, l'occasion de réaliser ce rêve, l'occasion de réaliser ce projet. Quels sont-ils? Si vous avez encore le temps de le faire, alors faites-le. Le mot « motivation » est en fait composé de deux mots latins qui signifient ou qui donnent plutôt l'idée de mouvement ou l'idée d'action, de mouvement. Motif, action. Pour être motivé, il faut donc des motifs, il faut des raisons, si vous voulez, de faire les choses, et des raisons valables, des raisons qui ont de la valeur pour nous. La règle est simple. Il n'y a pas de motif, alors s'il n'y a pas de valeur réelle dans la raison de faire telle ou telle chose, eh bien, il n'y a pas de motivation possible. Il faut qu'il y ait une raison valable. Ce qui motive, c'est justement le manque, ou le fait d'être affamé par certaines choses, de désirer, d'avoir en quelque sorte un ours qui court derrière nous. Ça va nous motiver forcément à aller beaucoup plus vite que lui, mais c'est l'espoir de pouvoir combler ce manque, de pouvoir aller dans une zone de sécurité, d'être dans une zone de satisfaction, eh bien, afin de se motiver, précisément, cet auteur, ce dramaturge, Patrick Leroux, dit qu'il ne faut pas hésiter à se donner l'occasion de se construire une cathédrale, quelque chose de très beau, quelque chose de merveilleux, quelque chose de beau, de formidable. En résumé, il faut chercher toujours à réaliser pour soi-même un avenir plus passionnant que celui d'hier et plus excitant encore qu'aujourd'hui. Plus que le fait de posséder quelque chose, c'est l'anticipation. Je le disais, la perspective de cette acquisition qui va déclencher en nous cette motivation. Nous ne sommes réellement motivés que lorsque nous cherchons à conquérir quelque chose. Je le disais encore à l'instant, le bonheur, ce n'est pas d'avoir quelque chose, eh bien, c'est plutôt de savoir qu'on va avoir cette chose. C'est cette anticipation, cette merveilleuse anticipation qui fait que nous sommes heureux, qui fait que nous avons cette motivation pour avancer. L'apôtre Paul lui-même ne s'y trompe pas quand il écrit aux chrétiens de Rome, dans son épître aux Romains, ces choses. Romains chapitre 15, verset 13. Dans Romains chapitre 15, verset 13, il leur écrit « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en quoi ? En espérance, par la puissance du Saint-Esprit. » Donc Paul savait que l'espoir, l'espérance était capitale pour chacun d'entre nous, pour que nous puissions avoir cette joie, cette paix dont il parle. Et c'est donc cet espoir, c'est cette espérance, c'est cette anticipation d'un avenir meilleur que celui que le temps présent, qui nous stimule, qui nous bouge, qui nous excite le plus, qui nous fait aller de l'avant. Alors, déjà, premier élément, première chose à bien noter, c'est qu'il nous faut demander, il faut prier notre Père Céleste, notre Dieu de l'espérance, de bien vouloir nous accorder ce précieux don motivant de l'espoir. Ayons cette humilité, confions-lui ce besoin, de sorte que nous puissions avoir ce précieux don, donc de l'espoir. L'espoir, le premier don, la première, si vous voulez, raison d'avoir cette motivation en nous, saine et sauve, toujours là, toujours présente. Après l'espoir, considérons la passion. Peut-être y avez-vous pensé déjà. C'est un deuxième facteur clé de la motivation, la passion. La passion. Supposons un instant, juste un instant. Supposons que vous venez de gagner sur votre compte en banque 30 millions. 30 millions de dollars, 30 millions d'euros, 30 millions de francs. Peu importe, vous avez un acquis de 30 millions. Qu'allez-vous faire de votre temps ? Qu'allez-vous faire de la journée du lendemain ? Allez-vous démissionner de votre travail après avoir fait vos adieux à vos collègues de bureau, à vos collègues de travail ? Et si effectivement vous prenez la décision d'arrêter du jour au lendemain votre travail, que ferez-vous de vos journées ? L'avenir semble prometteur. Il semble merveilleux, vous n'avez déjà plus cette pression financière sur vous pour savoir comment joindre les deux bouts à la fin de chaque mois. Mais vous choisirez évidemment ce qui vous passionne vraiment, souhaitons-le. Pourtant, nous le savons bien, aucun d'entre nous ne va probablement gagner 30 millions sur notre compte en banque. Mais si cela vous arrive, s'il vous plaît, passez-moi un coup de fil. Je plaisante, bien sûr. Je plaisante. Quoi qu'il en soit, la vraie leçon de cet exemple, c'est que si nous réalisons que nous n'aimons pas notre travail actuel, eh bien, il faut que nous trouvions absolument le moyen de nous préparer un meilleur avenir. Ça, c'est le retour à la réalité. Il faut que nous trouvions un meilleur travail. Pourquoi ? Pourquoi est-ce important ? Si notre travail nous aigrit, s'il nous fait éprouver du ressentiment ou toutes sortes d'émotions négatives, déjà, il est évident qu'il nous sera impossible de retrouver la moindre motivation dans ce que nous faisons du plus clair de notre temps. Et si c'est une chose, c'est une chose très dommageable que de perdre le plaisir de travailler, de toute évidence. Identifier, regarder les personnes qui ont perdu ce plaisir, eh bien, ce n'est pas très difficile. Le plus souvent, ces personnes vont chercher naturellement à combler cette frustration, ce manque de plaisir par d'autres sources de plaisir, des plaisirs, des substituts motivationnels, comme on les appelle, des substances, le tabac, l'alcool, la drogue, le jeu, la télévision, peut-être les achats compulsifs. Bref, il va falloir combler ce désir qui nous manque, ce manque de motivation, essayer de trouver quelque chose. Alors, à l'inverse, regardons l'exemple positif maintenant. À l'inverse, les personnes dont la vie est orientée vers un projet passionnant, vers leurs rêves, vers leur vision, comme par exemple ces chefs d'entreprise qui un jour ont décidé d'apporter à leurs contemporains un produit nouveau, un produit que eux savaient faire, quelque chose que personne d'autre ne savait faire aussi bien qu'eux, après leur réflexion, après leur avoir couché les choses sur une simple feuille de papier, ils savaient qu'ils avaient ce talent et ils ont mis les choses en œuvre, tout simplement. Ils ont eu, en quelque sorte, cette étincelle du chef d'entreprise, du créateur d'entreprise. Ces personnes font, d'ailleurs, souvent l'objet de commentaires très élogieux. On entend même parfois, on nous dit même qu'ils sont invulnérables, qu'ils sont infatigables, que ce sont des bourreaux de travail, que ce sont des ministres en puissance, avec des superlatifs comme invincible, ou même immortel. Alors bien sûr, c'est assez exagéré tout cela, mais on pourrait le dire immortel, dans le sens où nombreux sont ceux qui, d'après Patrick Leroux, parmi ces personnes, ne s'éteindront sans doute pas avant un âge très avancé. En tout cas, c'est sa conclusion. Donc Patrick Leroux, je le rappelle, expert en motivation, en performance, auteur de 9 best-sellers sur ces sujets. Le troisième élément, le troisième facteur clé de la motivation, c'est la croissance. Nous parlions de chef d'entreprise, mais il est vrai qu'une vie sans croissance est une vie monotone, une vie qui peut dériver vers l'ennui. Et c'est bien connu. C'est bien connu. Il nous faut ajouter de la couleur dans nos vies. Il nous faut de la diversité. L'être humain a besoin de variation, il a besoin de changement dans les habitudes. Et cela peut au contraire contribuer justement à dissiper l'ennui qui pourrait s'immiscer dans nos vies. La routine, les habitudes sempiternelles nous endorment et elles peuvent rendre la vie lourde, pénible, fastidieuse, pour finir par finalement affaiblir dangereusement notre créativité, notre inspiration, et au point d'affecter directement la vigueur et la fraîcheur de tout ce que nous pouvons faire. Peu de choses sont plus démotivantes qu'un travail répétitif, qu'un travail routinier. Pour retrouver la motivation, il est important de ressentir constamment les effets de notre propre croissance. Nous avons besoin de savoir que nous croissons, que nous augmentons. Nous avons besoin de savoir, par exemple, que nous nous améliorons. Personne dans la vie ne reste vraiment dans le même état. Nous ne restons pas stationnaires. Il n'existe pas d'ailleurs d'état humain stationnaire. On change forcément, soit en bien, soit en mal. Soit on avance, soit on recule. Mais pour qu'un système fonctionne bien, Il faut donc qu'il y ait une dynamique, il faut qu'il y ait un mouvement, une stimulation, une évolution permanente. Sans cette dynamique, eh bien, nos facultés mentales s'appesantissent, elles s'atrophient dans leur immobilité. Nous avons besoin de bouger. Par contraste, les gens qui sont motivés sont toujours en recherche. Ils étudient constamment. Ils recherchent continuellement à apprendre des choses nouvelles. Ils cherchent à s'améliorer. Ils n'hésitent pas à consulter d'autres personnes qui ont réussi, elles. Et ils savent certainement, par ces acquis, comment améliorer leur production. Je parlais de chef d'entreprise, mais tout être humain est concerné dans ce domaine, que ce soit dans ses hobbies ou que ce soit dans son travail personnel. Ils cherchent, je le disais, des choses nouvelles, ils cherchent à s'améliorer, ils cherchent à découvrir des principes secrets que seuls eux vont pouvoir mettre ensuite en mouvement dans leur propre domaine spécial, que ce soit, je le disais, dans les hobbies ou même dans une création d'entreprise, pour servir leurs contemporains, pour enrichir leur expérience et leurs connaissances. La croissance, c'est un thème constant de la vie. C'est un thème constant et c'est un moteur extrêmement puissant pour toute joie, pour toute motivation. L'apôtre Pierre en parle dans sa seconde épître, 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 8, dans la seconde épître de Pierre, 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 8. Il dit ceci, il écrit, « Sa divine puissance, la puissance de Dieu, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. » Verset 4, « Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez, vous, chrétiens, participants de la nature divine, fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, la piété, l'amitié fraternelle, et finalement, à l'amitié fraternelle, l'amour. Car si ces choses, dit-il, écrit-il, sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront pas oisifs, ni stériles, autrement dit stationnaires, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc là, on parle de la croissance chrétienne. Et on parle de la motivation chrétienne. Ajouter les choses les unes aux autres. Ajouter les vertus chrétiennes en partant de la connaissance, en partant de la foi, la vertu, les qualités chrétiennes, le courage par exemple, et à la vertu, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, etc., etc., jusqu'à l'amour, jusqu'au don parfait qui vient de Dieu. Nous développons ces choses, nous croissons, nous accumulons ces choses, couche après couche, échelon après échelon, pourrait-on dire, jusqu'à obtenir toutes ces choses, jusqu'à la connaissance parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans ce passage biblique, donc, nous voyons cette importance de la croissance. Nous ne pouvons pas rester au même état en tant que chrétiens. Nous ne pouvons pas attendre les bras croisés. Il nous faut croître. Il est question ici d'ajouter constamment une nouvelle chose à une autre précédemment acquise. C'est le contraire de l'immobilisme. C'est le contraire du statu quo ou de l'inaction. Et puis, quatrième élément, il y a aussi la reconnaissance. Pour être motivés, nous avons besoin de reconnaissance, mais de reconnaissance des autres. Nous avons besoin qu'il y ait des gens qui apprécient ce que nous faisons et que notre travail soit reconnu. Ce n'est pas nous qui allons reconnaître notre premier travail. Peut-être allons-nous le faire, mais si notre croissance se voit, peut être chiffrée, peut être appréciée, mais quel bonheur! C'est peut-être ce dont nous avons besoin. Il nous faut le reconnaître. Ce n'est pas tous les jours que quelqu'un vient nous dire « bon travail » ou nous félicite pour notre travail. Cela arrive et c'est formidable quand cela arrive. Mais pourtant, quand cela se produit sincèrement, en effet, quelle différence! Quelle différence! N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas particulièrement motivant? Est-ce que nous recevons beaucoup d'encouragement dans notre travail? Peut-être pas. Peut-être pas. Le besoin d'être reconnu, d'être aimé, d'être apprécié, à cause particulièrement de notre travail, eh bien, c'est le sentiment le plus profond de la nature humaine. C'est un besoin, c'est un sentiment, c'est vraiment quelque chose dont nous avons besoin. Et du reste, les études, les sondages d'opinion montrent que ce besoin de se sentir apprécié est tellement fort dans la communauté humaine qu'il dépasse même les notions de gains financiers ou, on va dire, d'équilibre sexuel. C'est à ce point vital et important pour l'être humain qu'il veut par-dessus tout, en premier, se sentir aimé, se sentir apprécié. Et souvent, les gens qui souffrent d'un manque de motivation souffrent plutôt, en fait, d'un manque d'appréciation. Pour être motivé à long terme, il faut que nous soyons aimés. Il est important de recevoir de la reconnaissance de la part de ces tiers privilégiés, la famille, les amis, de même que les collègues de travail. C'est important. Comme les voitures ont besoin d'essence pour avancer, eh bien, de même, les êtres humains ont besoin de reconnaissance pour être motivés. Il peut nous arriver, de temps en temps, d'être en manque de motivation. Il convient alors de nous demander quels sont les facteurs clés, je résume, qui pourraient éventuellement nous manquer. Rappelons-nous que lorsque nous sommes motivés, alors la réussite a de grandes chances d'être au rendez-vous, d'être au bout du chemin. Ma leçon personnelle sur ces quatre facteurs clés que nous avons vus, la reconnaissance, la croissance, la passion et le tout premier, l'espoir, hein, eh bien, c'est que c'est comme les quatre pieds d'une chaise, d'une chaise qui doivent être à la bonne longueur, sinon la chaise boiterait. Il faut que nous ayons ces quatre et il faut que nous les ayons à la bonne longueur, à la bonne dimension. Si ce n'est pas le cas, si la chaise de notre enthousiasme, de notre motivation n'est pas bien équilibrée, alors nous allons essayer de bricoler une solution pour qu'elle le soit. Si l'un de ces facteurs est manquant ou mal proportionné, nous allons devoir compenser ce manque d'équilibre par quelque chose. Nous allons tenter de bricoler une solution temporaire pour essayer de compenser cette lacune. Il nous faut donc retrouver cet équilibre est bien veillé à ce qu'il subsiste dans le long terme pour que nous ayons toujours, toujours cette motivation chrétienne. Voyons maintenant l'exemple de Salomon. J'en parlais en début de message. Salomon, nous le savons, avait des moyens intellectuels que Dieu lui avait donnés, des moyens intellectuels et des ressources absolument exceptionnelles. Reportons-nous au livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 1. Ecclésiaste chapitre 1, et nous allons lire la déclaration de Salomon lui-même qui reconnaît ses dons que Dieu lui a donnés. Ecclésiaste chapitre 1, verset 12 à 14, il écrit ceci, donc c'est Salomon qui écrit ces choses, il dit « Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. » C'est là une occupation pénible, dit-il, à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil. Et voici, c'est sa conclusion, tout est vanité et poursuite du vent. En fin de compte, il avait tout vu et finalement, il se disait, mais tout ceci ne représente finalement que peu de choses. Salomon a tout essayé, il a tout expérimenté. Il avait certes, des moyens exceptionnels, il a pu tout voir, et finalement, plus rien ne l'étonnait. Déjà dans le chapitre 2, au verset 3, il dit ceci, Ecclésiaste chapitre 2, verset 3, « Je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse. » Donc il ne fait pas d'abus particulier, mais il s'adonne au plaisir humain. Et il dit « Je résolus de m'attacher à la folie, jusqu'à ce que je vois ce qu'il est bon pour les fils de l'homme de faire sous les cieux pendant le nombre des jours de leur vie. » Donc il va essayer en quelque sorte tout ce qui se fait, tout ce que les hommes font de sage ou de moins sage, mais jusqu'à, on va dire, une certaine limite. En tout cas, c'est ce qu'il écrit ici. Et il dit aussi, j'exécutais de grands ouvrages, je me bâtis des maisons, je me plantais des vignes. Enfin, il a toutes sortes d'expériences. Il peut, grâce à ses richesses, se livrer à ses expériences. Et on peut se demander si effectivement le piège qui se refermait sur Salomon, est-ce que c'est d'avoir fait précisément trop vite le tour de sa vie. Y avait-il des choses qu'il devait encore apprendre ? A-t-il été présomptueux dans sa façon d'appréhender les choses ? Et la conclusion du livre va nous livrer des éléments de réponse. Il dit, et nous allons nous reporter dans 1 Roi, chapitre 11, verset 4, pour voir un petit peu les conséquences de la vie de Salomon. Dans le premier livre des Rois, au chapitre 11, 1 Roi, chapitre 11, et nous irons au verset 4, nous lirons trois versets. Verset 4, il est dit « À l'époque de la vieillesse de Salomon, donc tard dans sa vie, ses femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. » Nous savons qu'il avait énormément de femmes et de concubines. Et voilà ce qui s'est passé. Dieu avait bien averti les rois d'Israël de ne pas avoir de femmes au pluriel, en quelque sorte. Mais malheureusement, c'est ce que Salomon a fait. Et il est dit « Ses femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, donc il va vers des faux dieux, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. » Et Salomon, verset 6, « fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David, son père. » Donc Salomon Salomon recherchait l'étonnement. Il commençait à s'ennuyer. Il recherchait l'excitation, la motivation dans sa vie. Il n'y a rien de mal à cela. Il n'y a rien de mal à rechercher l'étonnement. Il n'y a rien de mal à rechercher la motivation, évidemment. C'est quelque chose qui fait partie de la vie. Mais cela devenait de plus en plus difficile physiquement pour lui. Il savait trop de choses, ou disons qu'il s'ennuyait avec ce qu'il savait. Il n'avait pas le désir d'aller plus loin. Et de ce monde physique, il savait tout simplement tant de choses que le simple fait de pouvoir étonner Salomon relevait de la plus grande prouesse. Qui va m'étonner ? En quelque sorte, il savait déjà tout. Ce n'était pas si facile de l'étonner, et Salomon, franchement, commençait à s'ennuyer. Il savait parfaitement que certaines choses, d'un autre côté, déplaisaient à Dieu, mais la tentation de faire des choses qu'il n'avait jamais faites devenait de plus en plus forte. Et il pouvait dire non, notamment aux incitations des femmes, de ces femmes, de ces multiples concubines. Est-il tombé sous le charme dévastateur et convaincant de celle que le Cantique des Cantiques appelle la Sulamite, ou peut-être celui d'une autre femme inconnue, quoi qu'il en soit, toujours est-il que Salomon a fini par céder et qu'il a fini par dire oui à certaines exigences ou certains caprices auxquels il aurait dû répondre non, tout simplement. Il a préféré dire oui, il a commencé à autoriser le culte des faux dieux, une chose que Dieu ne voulait pas voir, et cette dérive a peut-être fini dans les pires tourments, puisque, nous le savons, certains de ces cultes de faux dieux exigeaient des sacrifices humains. Donc le premier livre des rois n'en parle pas, mais nous savons que ces divinités, comme par exemple Milcom ou Moloch, étaient des divinités qui exigeaient, dans leur culte, eh bien, des sacrifices humains. Dans le premier livre des rois, au même chapitre, au verset 5, je venais de le lire, Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient, verset 8, qui offraient des parfums, des sacrifices à leur Dieu. Donc voilà, il fait bâtir des autels qui sont des autels à des faux dieux. Et il laisse ses femmes, ses concubines faire tout leur culte avec tout ce qu'il pouvait y avoir d'épouvantable. Il autorise ces choses et évidemment Dieu va le tenir responsable pour cela. Les conséquences sont effectivement dévastatrices. Les choses auraient pu être encore pires, mais par égard pour David, son père, eh bien Dieu va préserver l'intégrité du royaume de Salomon pendant toute la durée de son règne. Pendant son règne, non pas à cause de Salomon, mais à cause de David, son père. Et David, Salomon va conclure. C'est une chose assez exceptionnelle. Il va, dans le livre de l'Ecclésiaste, le dernier verset du livre de l'Ecclésiaste dit ceci, dans Ecclésiaste chapitre 12 et le verset 15, où il est dit « Écoutons la fin du discours ». Écoutons la fin du discours, voici la conclusion de Salomon, elle est très courte. Voici ce qui a de la valeur dans l'existence, voici ce qu'elle est là. Après une existence absolument exceptionnelle, où il a connu une richesse, où il a connu une sagesse absolument exceptionnelle, voici ce qui compte vraiment. Il dit ceci, crains Dieu, observe ses commandements. Crains Dieu, autrement dit respecte Dieu, et observe ses commandements. Tout aussi simple que ça. Et nous voyons que tout cela, grâce à la Bible, est disponible à tout un chacun. La Bible est l'ouvrage le plus imprimé dans le monde et il est même dit qu'il ne sera jamais détruit dans une version quelle qu'elle soit et sous quelque forme qu'elle existe. La Bible recèle, retient et expose les commandements de Dieu. Donc si nous voulons respecter Dieu, nous devons lire la Bible, nous devons l'étudier, nous devons observer ses commandements. C'est à la portée de tout un chacun. Car, et il ajoute, c'est là ce que doit faire tout homme. Il dit bien tout homme, il ne dit pas tout chrétien, il dit tout homme, autrement dit tout être humain, tout homme, toute femme. Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Faisons de notre existence quelque chose de valable. Soyons attentifs à ces choses, car tout cela a beaucoup plus de valeur par rapport à tout ce que Salomon a pu voir, l'or, l'argent, les possessions, et aussi la sagesse. Donc, sa conclusion, sa recommandation, c'est celle-ci, c'est celle que nous venons de lire. Il est vrai que Salomon reconnaît effectivement bien tard, ce que Dieu ordonne, et que toutes ces ordonnances, tout ce que Dieu ordonne, sa loi, doit guider nos vies. Sa loi doit guider nos vies. Nous devons tout simplement lui obéir, ce n'est pas plus difficile que cela, nous laisser guider par lui, avec foi, avec confiance, faire ce qu'il nous demande de faire, lui demander ces choses, tout simplement, et ne nous détourner ni à droite, ni à gauche de cette voie, des 10 commandements qu'il nous demande d'observer, et donc de cette loi qu'il a faite pour nous, ce manuel d'utilisation de la vie que Dieu a faite pour nous et qui ne sera jamais détruit. Pourquoi la motivation chrétienne doit répondre à des contraintes spécifiques? C'est là une question que j'aimerais maintenant aborder avec vous. Nous avons devant nous, chrétiens, et même le monde entier, qui que nous soyons, nous avons une destination grandiose. Dieu, notre Créateur, a pour toute l'humanité, je dis bien, pour toute l'humanité, un destin grandiose. Après nos vies, après nos souffrances, après nos errances, nous allons connaître le bonheur grâce à Dieu. Si nous voulons participer, si nous voulons laisser Dieu changer nos vies, si nous acceptons ces changements à un moment donné de notre existence, dans cette existence ou dans une autre, après la résurrection, eh bien, oui, effectivement, en vue de cette destination grandiose, nous répondons, dans la motivation chrétienne, à des contraintes spécifiques. Quelles sont-elles? En tout cas, dans cette existence, nous savons qu'il y a des oppositions. Il y a des oppositions, je vais essayer de vous les décrire rapidement. Le monde séculaire, nous le savons, à ses propres défis, ses propres difficultés, ses propres épreuves, dont d'ailleurs les chrétiens ne sont pas forcément indemnes non plus. Ces épreuves aussi peuvent toucher les chrétiens. Il peut y avoir la guerre, il peut y avoir des maladies, il peut y avoir toutes sortes de choses. Les chrétiens ne sont pas indemnes face à ces choses. Mais l'incroyant, lui, ne se soucie pas de plaire au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il ne croit pas en Dieu. Donc pour lui, la solution, c'est d'essayer de se tirer d'affaire de par ses propres forces, de par ses propres moyens. Ça, c'est la position de l'incroyant. Le chrétien, lui, sait que son parcours de vie, bien qu'il soit orienté vers une destination glorieuse, son parcours de vie fera face à des embûches spirituelles, à des difficultés. Et ces difficultés vont tester la valeur de sa motivation. La première chose qu'il faut faire pour un chrétien, c'est d'identifier la nature de ces obstacles, apparemment gigantesques, apparemment supérieurs. Pourquoi suis-je en train de dire que ces obstacles peuvent être gigantesques pour le chrétien? Eh bien, c'est parce que, justement, nous faisons face non pas à des hommes, non pas à la chair, non pas au sang, qui peuvent effectivement nous enlever la vie, c'est déjà grandiose, mais nous faisons face à des menaces bien plus grandes. Et ces menaces, Paul, dans son épître aux Éphésiens, dans sa lettre aux Éphésiens, au chapitre 6 et au verset 12, le dit, dans Éphésiens, chapitre 6, au verset 12, il parle de domination, d'autorité, de prince de ce monde de ténèbres. Ce sont des dominations menaçantes, ce sont des autorités obscures, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes, tels qu'ils sont décrits dans ce verset, dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. C'est ceux qui se sont, créatures de Dieu, qui se sont rebellés contre Dieu. Et il s'agit de, évidemment de Lucifer et de ses minions, de ses démons, qui ont décidé de s'opposer à Dieu et qui ont fait de l'humanité leurs ennemis. Donc tout ce que Dieu fait pour l'homme, pour l'humanité, nous le voyons, nous le lisons dans le livre de Job, par exemple, Satan essaye d'éprouver, essaye de faire du mal à l'humanité, par tous les moyens. Et il sature l'air de son influence spirituelle mauvaise. Il essaye, évidemment, d'inspirer le mal partout où il le peut. Et donc, nous avons besoin de lutter. Nous avons besoin de demander l'aide de Dieu pour lutter contre ces mauvaises influences. Il y a donc, et c'est le deuxième élément dans ce paragraphe sur les contraintes spécifiques du chrétien, il y a la lutte spirituelle que nous devons précisément engager contre ces dominations, contre ces esprits méchants, contre lesquels nous luttons. Et nous luttons, il le dit au verset 13 et au verset 17 dans Éphésiens chapitre 6, Paul l'écrit, nous devons lutter avec les armes de Dieu. Nous ne luttons pas avec une véritable épée, avec un fusil ou avec une arme quelconque. Nous luttons avec des armes spirituelles. Et il les compare, il utilise des métaphores. Il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Au moment où ces choses se déchaînent, peuvent se déchaîner contre nous, de tenir ferme après avoir tout surmonté. Il dit, verset 14, « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. » La métaphore d'une ceinture de vérité. La ceinture, en général, c'est le moyen de se mettre au travail. Dans la Bible, une ceinture, c'est déjà, on se ceint les reins de force, un peu comme un haltérophile, avant de soulever une charge d'importance. Il faut que nous ayons cette vérité en nous pour être bien affermis dans ce que nous allons faire. Il dit aussi, revêtez la cuirasse de la justice, protégez-vous. Encore une autre métaphore. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Donc pour courir, pour aller plus vite, pour être zélé, nous avons besoin de chaussures. Nous ne pouvons pas faire cela pieds nus. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, tous les traits enflammés de l'adversaire, de Satan, de celui qui cherche à détruire l'humanité, eh bien, il nous tire dessus. Et donc, nous avons besoin du bouclier de la foi en Dieu, la foi de Jésus-Christ, que nous devons demander à Dieu dans nos prières, demandons la foi de Jésus-Christ pour résister aux traits enflammés du malin, et faisons-le de façon quotidienne. N'ayons pas, ne prenons pas les choses pour acquises, mais soyons zélés dans ce domaine et faisons preuve, pour faire preuve de foi, il faut avoir la foi. La foi ne vient pas de nous-mêmes, elle vient de Dieu. Donc demandons la foi, demandons-la avec confiance, et Dieu nous donnera cette foi. Elle nous permettra de progresser dans nos prières, de progresser dans nos demandes, et de demander et d'obtenir de plus en plus de choses, bien entendu. Il dit aussi, verset 17, « Prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. » Donc la parole de Dieu, la Bible, c'est l'épée de l'Esprit. C'est notre épée, et Jésus-Christ l'a utilisée face à Satan. Il citait les Écritures, et Satan connaît les Écritures, et il s'est finalement retiré. « Prenez aussi, dit-il, le casque du salut. » Donc nous voyons ces choses, et nous les voyons aussi comme un enjeu. Précisément, je parlais du salut. Le salut est un enjeu. C'est cela qui est en jeu. C'est cela qui est en question. Nous voulons obtenir le salut. Nous voulons hériter de l'entrée dans le royaume de Dieu et de l'entrée dans la famille de Dieu. Dieu désire des fils et des filles, mais ça ne va pas se faire d'un claquement de doigts. Il nous faut faire ce qu'il nous demande, c'est-à-dire être patient, croître dans la grâce, dans la connaissance de Jésus-Christ, être zélé pour la proclamation de l'Évangile, être des chrétiens fidèles. Donc nous devons nous engager dans cela et nous devons nous tester pour savoir si nous voulons vraiment donner notre vie à Dieu et le servir et servir son peuple. Alors l'enjeu du salut, l'enjeu du royaume, voilà la chose importante. Dans 2 Pierre chapitre 1, l'apôtre Pierre dit ceci. 2 Pierre chapitre 1, et reportons-nous au verset 10. 2 Pierre chapitre 1, verset 10, il dit « C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation, affermissez votre vocation et votre élection, vous avez donc été élus, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. » Donc, vous aurez la motivation dont vous avez besoin. Vous ne tremblerez pas, vous serez sur votre chemin vers le royaume de Dieu. Verset 11, c'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordé. Donc Pierre, apôtre, confirme ici que la réception du salut, la réception de la vie éternelle, de la récompense du royaume de Dieu et des autres récompenses que nous pourrions recevoir, les villes, les titres, les gloires que Dieu voudra nous accorder à ce moment-là, eh bien, tout cela est conditionné par notre travail, notre victoire dans le combat spirituel que nous menons, dans le travail sur l'acquisition progressive des vertus dont je parlais un peu auparavant, dans les vertus, des vertus chrétiennes, mentionnées précisément au verset 5 à 7 du même chapitre, hein, de 2 Pierre chapitre 1. Et il écrit « À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi, je vous l'ai déjà lu, la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la patience, la piété, l'amitié fraternelle, l'amour. » Donc toutes ces choses, étudions-les. Voyons ce que nous pouvons faire pour avoir ces choses vraiment en nous, pour les exprimer et pour que d'autres en bénéficient. Alors, bien sûr, il nous faut des moyens supérieurs. Nous avons un objectif supérieur. Je le disais, nous avons des contraintes spécifiques. Nous avons tout ce royaume spirituel méchant qui se déchaîne contre nous. Mais Dieu nous donne les moyens de lutter contre ces choses. Et la grandeur et l'amour de Dieu sont là, et Dieu ne nous laisse pas seuls dans ce combat. Sa motivation, d'ailleurs, son désir de nous voir réussir sont à la dimension de son amour infini et grandiose. Et c'est donc à ce point que nous lui sommes précieux dans le cadre de son plan, pour qu'il fasse de nous sa famille. Cela a toujours été son plan, cela a toujours été son désir. Dieu est en train de se reproduire à travers l'humanité et veut que tous soient sauvés, que tous entrent dans sa famille spirituelle future après notre vie physique pour que nous soyons ses enfants. Et c'est alors que tout commencera. Ce sera alors une nouvelle vie, ce sera alors quelque chose de merveilleux et non pas de contemplation, mais quelque chose de formidable. Et il y aura des accomplissements merveilleux, tout comme il y a aujourd'hui dans chaque famille des croissances, des accomplissements, des joies, des bonheurs. Il n'y aura plus de larmes, mais il n'y aura que des joies et il n'y aura que des bonheurs. Donc son désir, le désir de Dieu, c'est que tous soient sauvés, c'est que tous entrent dans sa famille. Et puis il y a, j'en parlais, la nature de l'aide spirituelle de Dieu. Quelle est-elle? Quelle est l'aide que nous recevons? Je parlais de l'armure que Dieu nous donne. Notre Père céleste nous communique tout ce dont nous avons besoin. Et ça, c'est un élément important qu'il nous faut reconnaître. Nous avons tout ce dont nous avons besoin pour être victorieux dans ce combat. Dieu ne nous laisse pas seuls. Sa sagesse est là, elle est là à travers sa parole, nous l'avons, c'est la Bible, la parole de Dieu. C'est l'épée de l'esprit, j'en parlais. C'est elle qui produit en nous le fruit de l'esprit par la foi de Jésus-Christ. Donc Dieu nous aide, au moyen de la lecture de la Bible, à étudier, à connaître davantage Jésus-Christ, sa vie parfaite, et à faire de lui notre exemple, notre conduite dans la vie. Et puis, il y a aussi la promesse des réponses à nos prières, nos besoins quotidiens. Aussi petit soit-il, aussi grand soit-il, nous avons tous des besoins, nous avons tous un désir de faire les choses, d'être préservés de certaines choses, des petites, des grandes. Cela n'a aucune importance. Confions ces choses à Dieu. Donc, par la prière, nous avons cette possibilité. Dans Matthieu, dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 7, donc dans le sermon sur la montagne, Jésus, notre Sauveur, dit ceci, « Demandez et l'on vous donnera. » Donc un verset célèbre. « Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Quiconque demande reçoit. » C'est une promesse merveilleuse. Donc je le répète, Matthieu chapitre 7, versets 7 à 8. Il écrit, ou plutôt l'évangéliste écrit, « Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Donc il y a une réponse divine. Dieu répond à nos prières. Et au chapitre 21, verset 22, Matthieu, chapitre 21, verset 22, il dit ceci, « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Encore une autre promesse. Donc certains diront, « Mais je n'ai pas la foi. » Eh bien, demandez la foi, et une fois que vous aurez la foi, demandez avec foi, par la prière, tout ce dont vous avez besoin, et vous le recevrez. C'est une promesse que Jésus-Christ nous a donnée. Ces versets nous offrent les plus précieuses promesses de puissance victorieuse. Y croyons-nous? Sommes-nous disposés à faire l'effort nécessaire pour obtenir ces choses? Ces choses ont changé ma vie, elles changeront votre vie, elles peuvent changer votre vie. Nous avons besoin de victoire, nous avons besoin de réconfort dans nos vies et de réconfort dans nos épreuves. Nous avons tout ce qu'il nous faut, tous les moyens nécessaires pour triompher, pour produire la croissance spirituelle que Dieu veut nous voir atteindre. Soyons sûrs d'être en route, de faire ces choses, quel que soit le moment de notre vie, quel que soit le moment de notre parcours vers le royaume de Dieu. Notre motivation chrétienne dispose de tous les éléments spirituels nécessaires, offerts par Dieu, pour qu'elle puisse s'épanouir, pour qu'elle puisse porter les merveilleux fruits remplis de succès que Dieu attend de nous. Alors, quel est le but? C'est le but le plus élevé qui soit dans l'existence. Et la motivation chrétienne cible précisément ce but. Sans Dieu, qu'est-ce que serait la vie? La vie n'aurait aucun sens, absolument aucun sens. Après la mort, qu'est-ce qu'il y aurait? Eh bien, il n'y aurait plus rien. Avec Dieu, la vie a évidemment beaucoup de sens, beaucoup de signification, puisqu'après la mort, eh bien, je le disais, c'est là que tout commence. Pour croître dans cette vie physique, jusque dans l'éternité, avec la vie, dans la paix, et dans le bonheur d'une merveilleuse famille éternelle, la famille de Dieu, où il n'y aura plus jamais de larmes, où il n'y aura plus jamais de tristesse, plus jamais de souffrance, et où nous serons tous ensemble, ensemble, tous ensemble, heureux d'être paisiblement ensemble, dans la gloire, dans l'amour de Dieu, avec, imaginez-le, aucun sentiment négatif, aucune jalousie possible. Mais c'est merveilleux. Qu'attendons-nous pour croître dans cette direction, pour rechercher dès maintenant, je dirais, la croissance et la motivation chrétienne. Nous serons avec Dieu, nous serons dans son amour, nous serons avec lui, notre Père céleste, comme nous pouvons être maintenant, je l'espère, nous avons encore nos parents. C'est toujours merveilleux d'être en famille, nous le savons bien. Mais cette fois-là, nous serons avec Dieu, notre Père céleste, et nous serons avec Christ et avec toute l'humanité. L'ombre des choses à venir, dont l'apôtre Paul parle dans Colossiens, chapitre 2, verset 17, ou encore dans Hébreux, chapitre 10, verset 1. Dans Colossiens, chapitre 2, verset 17, Paul écrit et parle de l'ombre des choses à venir, ou de l'ombre des biens à venir, dans Hébreux, chapitre 10, verset 1. C'est la vérité époustouflante qui devrait nous motiver sur le sens de la vie. En effet, il nous est bien difficile d'imaginer la réalité du monde spirituel vers lequel nous allons, vers lequel la famille de Dieu, dans laquelle la famille de Dieu va commencer alors à vivre et à expérimenter toutes ces choses que nous avons bien du mal à imaginer. Qu'est-ce que le monde spirituel, le monde de Dieu, le monde des anges? C'est vraiment quelque chose de formidable. Eh bien, ce que nous vivons maintenant, ce que nous pouvons toucher, ce n'est que l'ombre des choses à venir. Les biens que nous avons, c'est l'ombre des biens à venir, quelles qu'elles soient, que ce soit des biens spirituels ou des biens physiques. Mais c'est époustouflant. Et c'est bien là que nous commençons à réaliser la grandeur du plan de Dieu, la magnificence de l'existence future dans son royaume. Et en effet, si le monde physique est déjà magnifique, tel que nous pouvons le voir, les paysages, les animaux, la nature, la puissance merveilleuse de Dieu dans le vent, dans la mer, bref, tant de belles choses, les matériaux, ce que l'homme fait à travers, avec tous ces matériaux, les merveilleuses inventions que l'homme fait, tout cela, c'est l'ombre, quelque chose en deux dimensions, des choses à venir. Si vous prenez l'ombre de ce stylo, ici, par rapport au projecteur, c'est plat, mais le stylo en lui-même recèle des choses que l'ombre n'a pas. Donc, vous voyez le parallèle de ce que j'essaye d'expliquer. Si le monde physique est déjà magnifique dans ce cadre, et s'il n'est que l'ombre des choses à venir, mais alors qu'est-ce que c'est? Ces choses à venir, c'est absolument incroyable. Cela dépasse l'entendement humain. Ce qui nous est réservé est grandiose, mais certainement encore plus grandiose que grandiose, si j'osais utiliser cette expression. Donc, il est prévisible dès maintenant que la magnificence, la perfection, la grandeur, les merveilles de Dieu soient tellement immenses dans le projet qu'il forme pour l'humanité qu'il ne serait maintenant quand même, malgré tout, bien difficile d'imaginer une fraction aussi petite soit-elle de cette immense perfection. Alors, quelle est la véritable clé, et nous nous approchons de la conclusion, quelle est la véritable clé de la motivation chrétienne? Comment ne pas tomber dans le piège dont je parlais en début, consistant à faire trop vite le tour de sa vie? La première chose est de suivre effectivement le conseil final de la vie de Salomon. Rappelez-vous, l'homme ayant possédé la plus grande sagesse humaine dans l'histoire de l'humanité, sans toutefois finir de construire malgré tout le caractère qu'il avait besoin de construire. Il avait la sagesse, il avait l'intelligence, mais il n'a pas construit ce caractère qui lui donnait la maturité, la possibilité de dire non quand il fallait dire non, et oui quand il fallait dire oui. Il avait besoin d'accomplir cette incroyable potentialité humaine qui était en lui. Mais nous avons maintenant, nous, la future famille de Dieu, le corps de Jésus-Christ, nous avons cette possibilité, grâce au Saint-Esprit de Dieu, de croître dans le caractère de Dieu et d'imiter en tout point Jésus-Christ dans sa vie parfaite, de rechercher son exemple, de marcher comme Jésus-Christ a marché. Donc, saisissons cette occasion, comme Dieu nous y invite, afin de permettre ce parachèvement de son œuvre en chacun de nous et de construire ce véritable caractère chrétien d'obéissance à Dieu en vue de notre naissance spirituelle dans sa famille, dans le royaume de Dieu. Alors, pour retrouver la motivation chrétienne, que devons-nous faire? Eh bien, si notre vie nous a poussés sur des chemins qui nous ont épuisés, qui nous ont fatigués, où plus rien ne semble nous promettre en termes de découverte, d'étonnement, de sensations fortes, que sais-je, nous sommes un peu lassés de la vie, ou tout simplement quelque chose qui comblerait nos désirs. Quoi qu'il en soit, parlons-en à Dieu. Il nous faut en parler à Dieu. Il nous faut ouvrir notre cœur. Soyons sûrs de garder une relation soignée avec Dieu, sincère, respectueuse. Comment nous présenterions-nous devant le président de la République? Comment nous présenterions-nous devant un souverain? Nous avons besoin de clarifier notre relation avec Dieu. Nous avons besoin de soigner notre relation avec Dieu. Le moment de la prière, peut-être à tout moment, quand je suis dans le métro, quand je conduis ma voiture, bien sûr, nous pouvons utiliser ces choses. Mais comment venons-nous devant Dieu, chaque matin ou chaque soir, dans notre chambre, en privé? Avons-nous ce désir d'être concentré? Avons-nous ce désir, ne serait-ce que d'être bien coiffé? Vous allez me dire, mais c'est peu d'importance. Si, ça a de l'importance. Dieu, ce n'est pas notre copain, c'est Dieu. Et il est notre Dieu, il est notre Créateur. C'est notre Père Céleste. Venons devant lui avec respect. Tournons-nous vers le mur comme le roi Ézéchias. Et pleurons. Reconnaissons notre misère. Reconnaissons notre petitesse devant le grand Dieu de l'univers. Recherchons son conseil. Faisons de notre mieux. Il y a beaucoup à conquérir. Commençons par les petites choses, les unes après les autres. Salomon avait mis en silence cette relation indispensable avec Dieu. Eh bien, il pouvait revenir à Dieu, qui ne se lasse pas d'être miséricordieux. Qu'a-t-il fait de sa vie? On peut espérer qu'il s'est repenti, puisqu'il a eu ces mots en fin de livre. En conclusion, je voudrais simplement rappeler que ce que nous avons vu au cours de ce message, tout d'abord, ne nous méprenons pas. Il nous arrive à tous d'avoir un passage à vide. Cela nous arrive à tous, ou même plusieurs passages à vide dans notre existence. Ce n'est pas pour autant la fin de tout. Il est vrai que les orateurs motivationnels savent nous parler des ingrédients fondamentaux de la motivation que nous avons brièvement passé en revue. Je le disais, l'espoir, la passion, la croissance, la reconnaissance, bref, ces choses sont importantes. Mais même si ce sont des choses de grande valeur, nul doute à ce sujet d'ailleurs, pour tout être humain, ce ne sont pas les seuls instruments à la disposition du chrétien, du véritable chrétien. Du chrétien appelé par Dieu notre Père céleste sur la route vers le royaume de Dieu. Un homme de grande valeur, le roi Salomon, dans l'histoire du peuple de Dieu, nous a laissé ce témoignage absolument phénoménal. Je veux parler de Salomon, oui, le roi d'Israël, dont la sagesse humaine ne fut jamais surpassée dans toute l'histoire humaine. Sa conclusion au terme de sa vie, je le répète, je l'ai dit, sa conclusion est éloquente. Et donc dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 15, je relis ces mots, il dit « Crains Dieu, observe ses commandements, c'est là ce que doit faire tout homme. » Point à la ligne. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, tout être humain, tout homme, toute femme. Et il dit bien tout homme, tout être humain. Il ne dit pas tout chrétien, tout homme, tout être humain. Et c'est certains se diront peut-être, mais être chrétien, ce n'est pas facile, c'est dur. Il peut y avoir des moments difficiles dans la vie du chrétien, mais le jeu, comme on dit en français, le jeu en vaut la chandelle. Nous avons deux grands ennemis, nous chrétiens, mais ils sont plus faibles que notre plus grand ami, que notre Père Céleste. Il est toujours, notre Père Céleste, victorieux, à notre secours, tant que nous faisons appel à lui. Chaque jour, soyons donc consciencieux dans notre relation avec lui. Recherchons son conseil. Recherchons son visage devant nous. Faisons notre part. Restons motivés. Adressons à Dieu notre prière sincère chaque jour et continuons. sur le chemin qui nous mène jusqu'à son glorieux royaume, le royaume de Dieu. Je vous souhaite une excellente fin de sabbat et je vous dis à bientôt.